Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
L'ONU dénonce des violences sexuelles perpétrées par des groupes armés dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo. Le HCR a demandé aux autorités de faire le nécessaire pour que des enquêtes soient menées afin que les responsables soient traduits en justice. Il appelle à renforcer la sécurité dans la zone entre les provinces du Tanganyika, du Maniema et du Sud Kivu. Dans le secteur de Kongolo et Mbulula, 243 viols ont été enregistrés en 15 jours dans 12 villages, dont 48 subis par des filles, soit une moyenne de 17 par jour. Des personnes déplacées accusent des groupes armés de se livrer à des viols collectifs et d'enlever des femmes et des filles pour les soumettre à l'état d'esclaves sexuels, selon le HCR. Au Cameroun, la garde à vue de 3 jours à Douala de la femme d'affaires Rebecca Enonchong pour outrage à magistrat a provoqué de nombreuses réactions. Classée en 2020 parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique par Forbes, elle a été libérée le 13 août. Cela concerne une affaire de succession avec un de ses frères dans laquelle elle a été accusée d'outrage à magistrat, selon Alice Nkom, une avocate de Madame Enonchong. De nombreux messages avaient été publiés sur les réseaux sociaux pour demander sa libération. Rebecca Enonchong, qui a créé en 1999 le fournisseur de logiciels de gestion d'entreprise Abstech, est présidente de l'incubateur de start-up Active Spaces et du réseau de centres d'innovation AfriLabs, qui soutient près d'un million d'entrepreneurs en Afrique. Au Cameroun toujours, 2 femmes transgenres ont été agressées à Douala le 8 août dernier, a rapporté Human Rights Watch. Shakiro et Patricia avaient été remises en liberté provisoire en juillet après avoir été reconnues coupables de tentatives d'homosexualité. Les agresseurs les ont tirées de force d'un taxi, insultées, menacées de mort et tabassées pendant 30 minutes avant de s'enfuir à l'arrivée des gendarmes, indique l'ONG. L'attaque a été filmée dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. En février, elles avaient été arrêtées et condamnées en mai à 5 ans de prison pour pratiques homosexuelles.
Parole de femme.
Au Bénin, les députés ont voté une loi en 2019 permettant aux femmes d'être placées à des postes de responsabilité. À l'époque, la mesure a été saluée par les organisations de défense des droits des femmes, mais 2 ans après, le constat est amer et les femmes ont du mal à trouver leur place dans le leadership politique. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Les femmes béninoises ont encore du mal à trouver la voie qui mène vers les postes décisionnels. Sur le plan politique, le chemin paraît encore long, même si par l'entremise d'une réforme électorale, la chance leur est donnée de se positionner. Judith Glidia est membre du Bloc républicain, l'un des partis proches du pouvoir.
C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État. C'est un homme de parole, nous avons confiance en lui, nous savons que on va y arriver et que la femme sera célébrée comme cela se doit.
Une chose est de voter une loi qui donne une place prépondérante à la femme au sein des partis politiques et l'autre chose est qu'elles arrivent à dépasser les pesanteurs socioculturelles pour s'impliquer réellement. Pour Marielle Degoué, politique et membre de la société civile, il faut que les femmes prennent conscience du rôle qui leur revient dans la gestion de la cité.
Pour nous, l'absence des femmes aux instances de décision, c'est beaucoup plus le manque d'implication dans les initiatives. Vous savez, les femmes n'aiment pas faire de la politique. Lorsqu'il est question de politique, elles se préfèrent toujours en dessous. Il faut que les hommes soient en avant et puis elles derrière. C'est normal. Lorsque l'on sait aussi que les réunions politiques sont des réunions nocturnes, les femmes devant être à la maison. Mais nous faisons partie de ces personnes qui continuent de croire que ces petites raisons-là ne devraient pas être des motifs de retrait des femmes au niveau des instances parce que la compétence, il y en a au sein des femmes.
Dans le milieu professionnel, on est bien loin de la mobilisation escomptée. Les hommes ont encore du mal à accepter et recevoir des ordres venant d'une femme. Senalia Glago est rédactrice en chef dans une radio privée de la place. Pour elle, le combat est quotidien.
Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes, mais on gère. Que les hommes grand âge déjà ont du mal à accepter des femmes journalistes, des femmes dans le métier, parce qu'on s'est fait des stéréotypes, on s'est fait des clichés, et on s'est dit qu'une femme dans ce monde-là, c'est une femme débauchée.
Pour Michel Zocli, ingénieur agronome de profession, les femmes n'ont rien à faire au poste de décision.
Très souvent, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas à la maison, elles désertent le foyer. Or, en réalité, la femme devait rester beaucoup plus à la maison, s'occuper des enfants. Elles sont beaucoup plus tentées par les avances pour ce qui concerne leur métier.
Selon le sociologue Mouleroy Amouzouvi, avec les défis du monde actuel, les gouvernants ont le devoir de donner aux femmes leur chance de prouver ce dont elles sont capables.
Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme.
Cela fait des décennies qu'on se bat au Bénin pour que les femmes puissent avoir plus de chance pour accéder au poste de responsabilité. Des initiatives ont été portées, mais elles se sont heurtées aux pesanteurs socioculturels qui parviennent encore aujourd'hui à avoir le dernier mot. De Cotonou, Jeanette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Acha Mohamed est chauffeur de taxi à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Dans un pays que l'ONU classe parmi les plus difficiles pour les femmes, ce choix très courageux vise à briser les stéréotypes. Les femmes sont en effet de plus en plus nombreuses à conduire des taxis dans cette ville, encore frappée par des attaques terroristes. Partons à la rencontre de la jeune mère de famille divorcée qui avait été mariée à 16 ans. Le récit est de Blanche Sanou.
À 19 ans, Acha Mohamed a dû trouver un travail pour subvenir aux besoins de ses deux enfants lorsqu'elle a divorcé de son mari il y a un an. Elle a choisi de devenir chauffeur de taxi.
Quand j'étais petite, j'étais passionnée de voitures. Je voulais devenir pilote un jour. Au début, je ne pensais pas devenir chauffeur de taxi, mais quand la compagnie de taxi Recab a été créée en 2019, j'ai décidé de la rejoindre, surtout parce qu'il n'y avait pas de conductrice à l'époque. J'ai vu une opportunité.
Les femmes sont confrontées à une bataille acharnée pour l'égalité des droits en Somalie, un pays conservateur. En 2012, les données des Nations Unies ont montré que le pays figurait parmi les plus faibles en matière d'égalité des sexes. Plus encore, le divorce est mal vu. Mariée à 16 ans, Acha a fait un pas courageux en quittant son mari. Aujourd'hui, elle a bravé un autre stéréotype, conduire un taxi, un secteur dominé par les hommes.
Le nombre de femmes chauffeurs de taxi était très faible en raison des problèmes de sécurité. Mais depuis que nous avons lancé l'entreprise, nous recrutons plus de femmes.
La conduite de taxi est un travail risqué en Somalie, selon les gérants de taxi, car des terroristes déclenchent régulièrement des attentats aux voitures piégées au niveau des intersections et aux points de contrôle de sécurité. Néanmoins, plus de 2000 taxis sillonnent les rues de Mogadiscio et les clients s'habituent de plus en plus à voir des femmes au volant.
Ces derniers mois, j'ai souvent recours à cette compagnie de taxi. Et même si c'est généralement un travail d'homme, je préfère aujourd'hui les femmes. Elles sont toujours à l'heure et conduisent beaucoup plus prudemment.
Mohamed vit avec sa mère qui s'occupe de ses enfants pendant qu'elle travaille. Elle gagne 40 dollars par jour, assez pour s'occuper de sa famille. Petit à petit, elle se ferait un chemin vers l'avenir pour elle-même, mais aussi pour d'autres femmes somaliennes.
La nageuse australienne Madeline Groves, qui a renoncé aux Jeux olympiques de Tokyo pour dénoncer la misogynie dans le sport, a assuré au Sydney Morning Herald que sa prise de position valait plus que toute médaille. Elle dit avoir reçu de nombreux soutiens d'athlètes, d'entraîneurs et de cadres. La double médaillée d'argent au JO de Rio s'est retirée des qualifications en juin. Vous ne pouvez plus exploiter les femmes et filles, leur faire honte ou les exposer à du gaz médical puis attendre d'elles qu'elles vous représentent afin de gagner votre prime annuelle, avait-elle expliqué. Reconnaissant que les comportements inacceptables remontaient à plusieurs décennies, la Fédération australienne de natation a mis en place un comité pour enquêter.
Si je ne pouvais.
Dans le nord du Nigeria, des dizaines de milliers de jeunes sont devenus orphelins à la suite des attaques des djihadistes, selon des défenseurs des droits des enfants. Certains ont trouvé un foyer et un soutien dans une école de l'État de Sokoto. Un reportage de Haruna Shehu. Le récit est de Blanche Sanou.
Awa Kiari, 13 ans, et son jeune frère Mohamed se préparent pour des cours à la UK Jarma Academy. Comme eux, environ 160 autres jeunes, pour la plupart des États du nord-est de Borno, de Yobe, mais aussi de Sokoto, ont été amenés ici pour obtenir du soutien après que les insurgés de Boko Haram ont tué leurs parents.
Good morning, how are you?
Les élèves ont entre 6 et 15 ans. La plupart étaient très jeunes lorsque leurs parents sont décédés. Certains conservent encore des souvenirs de la violence.
Mon père était avec sa femme en train de prendre son repas quand quelqu'un l'a appelé pour qu'il vienne à l'extérieur. Des hommes armés lui ont tiré dessus. On l'a emmené chez ma mère. Il est décédé plus tard sous mes yeux. Quelques jours suivants, ma mère a succombé sous le choc.
Ibrahim Ismail est originaire de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Il a été témoin du meurtre de son père.
Nous revenions du marché. Certains passants nous ont avertis de rentrer parce que des militants de Boko Haram attaquaient la communauté. En route, Boko Haram m'a attrapé et décapité mon père. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai juré que lorsque je serai grand, je vais devenir soldat pour venger la mort de mon père.
Depuis son apparition en 2009, l'insurrection de Boko Haram a rendu orphelins des dizaines de milliers d'enfants dans le nord du Nigeria, selon des responsables de l'État de Borno. Pour aider les enfants désespérés, l'homme d'affaires et philanthrope Umarun Kwabo a ouvert la Jarma Academy en 2018.
Ils ne recevaient pas les soins dont ils avaient besoin et parce que j'ai les moyens d'aider, j'ai décidé de contribuer. Je suis conscient des récompenses que Dieu nous donne pour aider les orphelins.
L'académie fournit de la nourriture, un abri, des vêtements et des soins de santé, ainsi que l'enseignement religieux et les cours universitaires qui suivent le programme national d'éducation au Nigeria. La Jarma Academy, qui reçoit une aide d'individus, de groupes et de gouvernements, visait initialement à soutenir les jeunes tout au long de l'école secondaire. Désormais, Kwabu s'est engagé à couvrir leurs frais universitaires en utilisant le produit d'une exploitation immobilière.
Nous élaborons des plans pour leur offrir un avenir meilleur, comme nous le faisons pour nos propres enfants.
Mais des milliers d'autres orphelins vivent dans les rues du nord du Nigeria. Kwabu espère que l'académie servira de modèle pour inciter d'autres entités à les aider.
Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Le fabricant de jouets Mattel a créé une poupée Barbie en l'honneur de la scientifique britannique Sarah Gilbert, co-créatrice du vaccin anti-Covid AstraZeneca. La professeure de l'université d'Oxford a d'abord trouvé cette initiative très étrange avant de déclarer espérer que cela inspirerait une prochaine génération de jeunes filles pour travailler dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Madame Gilbert a été anoblie en juin par la reine Elisabeth II. Mattel diversifie le look de ses poupées face aux critiques sur l'image superficielle qu'elle véhicule. L'entreprise a révélé 5 modèles de collection représentant une infirmière américaine des urgences à New York, des femmes docteurs à Las Vegas, au Canada et en Australie, et une scientifique brésilienne. Au Mali, le centre de détention de Bolé pour femmes et filles est une prison différente des autres, qui permet notamment la réinsertion des personnes incarcérées une fois remises en liberté. Atelier de coiffure, fabrication de savon et machines à coudre distinguent en effet ce centre des établissements pénitentiaires ordinaires, souvent surpeuplés et insalubres. Blanche Sanou nous en dit plus.
La prison pour femmes de Bolé est surveillée majoritairement par des gardiennes avec peu d'armes et de tenues réglementaires. Des femmes mènent leurs activités quotidiennes et des enfants jouent à la crèche. Aucun homme n'est admis après 16 heures. La plupart de ces femmes se retrouvent dans cette prison suite à des accusations ou des condamnations pour violence, meurtre, infanticide, coups et blessures, mais aussi de vol ou de participation au trafic d'êtres humains et de drogue.
Quand tu donnes par exemple une femme 20 ans ou bien 15 ans ou bien 10 ans en prison, mais ça c'est pour foutre sa vie quand même. Bien, voilà. Le seul message que je peux dire, je dis aux autorités maliennes vraiment de revoir la condamnation des femmes. Oui, l'erreur est humaine, c'est vrai. Nul n'est parfait dans la vie, mais vraiment qu'ils revoient un peu la condamnation des femmes.
Selon les sources locales, l'histoire de la prison débute durant la révolution malienne de 1991. Le centre de détention verra le jour en 1999 et reste à ce jour la seule prison exclusivement réservée aux femmes dans la sous-région. Selon la Direction nationale de l'administration pénitentiaire, la prison de Bolé offre des ateliers qui forment les femmes à divers métiers. Elle comprend aussi un terrain de basket et offre même des cours de yoga.
Toutes ces dames ou toutes ces filles mineures que vous voyez dans la détention, elles font quelque chose, elles font une activité. Nous ne sommes pas seulement un centre de détention, mais nous sommes là également pour rééduquer, pour apprendre aux détenus des activités régénératrices de revenir, afin de préparer leur réinsertion dans la société.
En plus de ces facilités, la solidarité est de mise entre les 144 détenus.
Cela va nous permettre de les empêcher de commettre des délits, parce qu'on va les réinsérer dans la société. Donc, elles seront autonomes, elles vont se prendre en charge, prendre leur famille en charge et servir en un mot le pays.
Certaines sont entrées en prison avec leur bébé dans les bras. Aujourd'hui, on compte environ une vingtaine d'enfants qui bénéficient sur place d'une crèche.
Ils n'ont rien fait pour se retrouver ici. C'est leurs mamans qui ont fauté, qui sont là. Et la loi malienne également dit que l'enfant peut accompagner sa maman dans le milieu de détention jusqu'à 3 ans. Au-delà de 3 ans maintenant, on peut choisir en coordination avec ses parents, avec le service social de l'établissement, pour le mettre dans un autre centre d'enfants à l'extérieur de la prison.
En raison de la lenteur de l'appareil judiciaire, la grande majorité des détenus, soit les 2/3 selon la direction pénitentiaire, n'a jamais été jugée. Sur les 144 détenus, 19 sont étrangers, originaires de pays comme le Nigeria, le Zimbabwe ou le Malawi.
Entre parenthèses.
Au Cameroun, près de 400 000 ménages reçoivent des transferts monétaires octroyés par le gouvernement dans le cadre du projet dénommé « filets sociaux ». Cet argent leur permet de lutter contre l'extrême pauvreté. Le nombre de familles dans le besoin s'est accru, notamment à cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise anglophone. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Avec la survenue de la pandémie du coronavirus, les inégalités et la vulnérabilité de certaines populations sont de plus en plus criardes au Cameroun, ce qui a augmenté le nombre des ménages bénéficiaires du projet filet sociaux. Marcelin Djo, coordonnateur national du dit projet.
Le gouvernement a donc mis dans le cadre du Fonds de solidarité nationale à la disposition du projet filet sociaux un montant de 16 milliards de francs CFA. Ce montant a permis au projet de sélectionner 80 000 bénéficiaires. Et dans un premier temps, le gouvernement a demandé que nous choisissions ces bénéficiaires dans les chefs de région. Le bénéficiaire donc choisi fait 3 mois dans le programme et le bénéficiaire a 180 000 pendant ces 3 mois.
Par ces financements, les familles résistent aux chocs économiques et sécuritaires. Certains ménages bénéficiaires sont issus de Yaoundé, dans la région du centre, ou encore des localités telles que Fundop et Ndop, dans la région du nord-ouest, en zone anglophone, comme ces deux dames.
I was unable to even buy fish for 200 francs, but now I am able to buy fish for at least 500 francs. To be doing this my business.
Safety net teach me how to keep fowls. Through this fowl, I be able to live with my family.
1500 ménages de la commune de Fundop et 500 de la commune de Ndop, dans la région du Nord-Ouest, ont été les zones pilotes de ce projet. Abel Mbombo, maire de la commune de Ndop.
We are very grateful that the people who benefited from it have been able to increase their revenue. They have been very helpful in community activities.
À Yaoundé, Aissatou Ousmanou, 36 ans, mère de 7 enfants, est commerçante au quartier Briqueteri, l'un des plus peuplés de la capitale. Elle est une bénéficiaire du projet filet sociaux.
La vie a changé. Tes petits enfants, 200, 300, 500, ça entre par jour. Tu n'as pas de problème.
Aubertine Ekingé, quant à elle, a 8 enfants à sa charge. À 59 ans, elle dit être sortie de la galère grâce à l'aide gouvernementale.
Je faisais seulement le bâton et les beignets. Avec le projet, ça m'a augmenté que je fais le poisson. Je paye aussi les sauts du maïs.
Ce sont les enquêtes sur les conditions de vie des ménages organisées par l'Institut national de la statistique qui permettent d'identifier les Camerounais qui sont les plus frappés par la pauvreté chronique et ont besoin d'une intervention urgente du gouvernement. La région de l'extrême nord, confrontée aux attaques de la secte Boko Haram, celle du nord, de l'Adamawa, de l'est et les deux régions anglophones, épicentes d'un conflit entre les séparatistes et l'armée régulière, sont, d'après les dernières enquêtes, les plus grands bénéficiaires du projet filet sociaux. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact, bon courage et à très bientôt.
Arrête!